Donc, nous sommes réunis pour nous édifier mutuellement, pour glorifier ensemble notre Seigneur. Et nous voulons vraiment le faire d'un cœur entier, laisser ce qui a pu nous agiter, nous contrarier, nous occuper, préoccuper. Donc, pendant cette semaine. Et puis même là, justement, dans les quelques minutes qui ont précédé. Alors, on va rendre grâce à Dieu encore et lui demander sa bénédiction sur ce moment. Seigneur Père, nous te bénissons, nous sommes réunis devant toi, nous glorifions ton nom, nous te demandons de nous instruire par ta grâce, Seigneur. Sois béni et glorifié. Aujourd'hui, dans notre rassemblement, et instruis-nous par ta parole, Seigneur Jésus. Bénis ces instants, Seigneur. Amen. Je prends un verset fondamental dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 14. Avec une application bien particulière que je vais faire. Pour moi, ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. C'est vraiment un temps où l'apôtre enseigne sur la position du chrétien dans ce monde. Il se glorifie de la croix du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la pratique de la loi, hein, et par rapport à la circoncision, ces choses de prescriptions de la loi de Moïse. Et tout cela, l'apôtre le met de côté pour se glorifier de la croix de Jésus-Christ. Parce que par cette croix, il y a la réconciliation avec Dieu, il y a le salut véritable, mais il y a aussi à partir de là une ligne de démarcation totale avec le monde. Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. La position du chrétien au sein de ce monde est totalement changée par la croix de notre Seigneur. Il y a une incompatibilité entre le chrétien dans sa vie nouvelle avec Jésus-Christ et sa vie précédente au sein de ce monde. Le monde, c'est quoi ? Le monde, c'est l'humanité dans son esprit rebelle à Dieu. Et puis, c'est aussi la société par laquelle, à un moment donné, dans un lieu donné, cette humanité s'organise, en fait. Alors, nous vivons, nous, pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une partie de son royaume. Et nous nous occupons de notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Nous nous occupons de ses bienfaits, nous nous occupons de ses intérêts. C'est cela la position du chrétien, de celui qui est né de nouveau, qui est venu à Christ. Et cela se fait en assemblée. Cela se fait aussi en famille. Cela se fait lorsqu'il n'y a pas possibilité de le faire en famille, cela se fait au moins seul à seul avec notre Seigneur. Mais gloire à Dieu pour le temps où des familles entières connaissent cette grâce de Dieu et vivent sous la croix de Jésus-Christ. Alors, le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde. Le monde avec quoi? Le monde avec ses convoitises. Le monde avec son orgueil, le monde avec ses guerres, avec ses conflits, avec ses ambitions, avec tout cela, tout ce qui fait la vie de ce monde, eh bien, il y a une totale rupture pour l'enfant de Dieu. Donc le monde, c'est cette humanité rebelle à Dieu. Là, nous n'en sommes plus, puisque nous sommes devenus amis de Dieu. Nous sommes entrés dans les plans de Dieu, dans sa pensée, dans son amour, dans son cœur. Nous sommes attachés à notre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes totalement distincts de ce monde rebelle à Dieu. Maintenant, nous vivons avec Dieu, pour Dieu. Nous allons à la rencontre de Dieu. Mais le monde, c'est donc aussi cette société, la manière dont l'humanité autour de nous s'organise. Et là, nous en sommes. Nous en sommes encore. Nous y sommes éduqués. C'est quand même dans cette société que nous apprenons à lire, à compter, à écrire, à mener une vie de citoyen. Nous y travaillons, nous payons des impôts, et le Seigneur Jésus donc nous a demandé effectivement de payer les impôts. Donc tout ça, c'est pour l'organisation de cette société. Donc nous y avons part, c'est évident. Et puis par nos engagements et notre attitude, nous manifestons le royaume au sein de cette société. Il est évident qu'un chrétien, dans son travail séculier, par son attitude, par ses positions, va apporter quelque chose qui n'est pas naturel dans la société du monde. Son honnêteté, ses scrupules. On a l'exemple d'un frère très proche qui régulièrement se confronte à sa hiérarchie parce que il ne veut pas utiliser certains logiciels qui devraient être déclarés, qui ne le sont pas. Voilà. Ça fait vraiment une différence au sein de cette entreprise. Et d'autres manifestations du royaume, en fait, par l'enfant de Dieu au sein de cette société. Mais surtout, nous privilégions notre intérêt, nos centres d'intérêt, c'est le rassemblement des croyants, nous rapprochons des enfants de Dieu pour vivre ensemble le royaume, du moins en espérance, pour cultiver l'espérance du royaume. Donc, nous avons nos réunions, nous avons vraiment nos édifications communes. Et puis, une fois rentrés chez nous, lorsque nous avons fini nos rassemblements, nous gardons dans nos cœurs et dans nos vies personnelles, c'est cette recherche du Seigneur, cette foi dans sa parole, ces temps de prière. Ça fait partie de notre nature nouvelle. Lorsque nous avons travaillé au sein de ce monde, lorsque nous avons assumé nos responsabilités, nous rentrons chez nous. Et là, on peut dire, les contraintes de la vie sociale y sont moins lourdes. Elles ne sont pas absentes, bien sûr, puisque une bonne partie de notre vie chez nous consiste à se préparer pour la vie en société. Hein, lorsque une maman a ses enfants qui vont à l'école, bien sûr que quand il faut les lever, les préparer, ça fait partie des contraintes de la vie sociale. Ça se passe à la maison, mais ça fait, c'est quand même la vie de la société qui est dans la maison. Mais quand même, nous organisons notre vie personnelle, notre vie de famille, en fonction de nos préoccupations spirituelles, de notre engagement envers le Seigneur. Et nous le pouvons. Et la piété, donc, a toujours été la priorité au sein des familles chrétiennes. C'est ce qui les distingue des familles de ce monde. Mais voilà que s'est produit quelque chose il y a maintenant une génération en arrière. Hein. C'est l'arrivée des mass médias. Auparavant, il y a toujours eu les journaux. Enfin, oui, c'est ça, oui, ça fait quand même quelques siècles, les livres, les journaux. Et puis sont arrivés la radio, d'abord, et puis la télévision. Et là, ça a compliqué sérieusement la vie spirituelle des enfants de Dieu. Ça a compliqué parce que qu'est-ce que un média ? C'est quelque chose qui nous met en rapport avec, hein, qui fait médiation entre nous et donc le mass média, la télévision en particulier, nous met en rapport avec le monde, justement. Il fait entrer le monde chez nous. Et ça a posé vraiment un problème aux chrétiens lors de l'apparition de la télévision. Beaucoup de chrétiens se sont posé la question, mais est-ce que je dois avoir une télévision chez moi ? C'est un vrai problème qui demeure d'ailleurs dans la conscience de plusieurs. Et c'est une bonne chose, parce que c'est un vrai rapport au monde qui s'installe, c'est le monde qui vient chez nous. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un feuillet du calendrier qui rappelait que l'expérience, justement, d'un fidèle qui, c'était le moment où tout ça se mettait en place, il se posait vraiment la question, est-ce que je dois avoir une télévision ? Et il s'était quand même décidé d'aller acheter cet appareil. Et puis en rentrant chez lui, il voit une grande publicité, la télévision, le monde entre chez vous. Il est allé reporter le poste. Voilà, il y avait une conscience aiguë en fait de ce qui se jouait avec la présence de ce média dans la famille. Le monde entre chez vous. Oui, c'est bien le cas. C'est le cas, c'est inutile de le nier. Et il faut donc prendre quand même des résolutions, être armé pour faire face à cette présence, bien gérer cette présence du monde chez nous. On peut continuer, décider définitivement de s'abstenir d'avoir un poste de télévision chez soi. Et beaucoup le font encore. Mais si toutefois on estime que, puisque chacun dans sa conscience est placé devant Dieu, est libre, si l'on estime que l'on peut avoir ce rapport-là avec le monde, eh bien, il y a quand même des bornes à poser. La première, c'est d'abord de garder à l'esprit qu'il s'agit bien du monde, C'est-à-dire un univers qui est étranger à notre nouvel univers spirituel d'enfant de Dieu. Donc, si on accepte sa présence, nécessairement, elle sera limitée. Ne laisserons pas ce monde prendre toute la place au sein de notre foyer, dans notre vie personnelle. Une télévision qui reste allumée en permanence, ça pose un problème pour la vie spirituelle personnelle. On entend parfois dire, oui, mais c'est pour avoir une présence. Ben oui, mais quelle est la présence que nous recherchons? La présence de l'Esprit, la présence du Seigneur lui-même avec nous, ou la présence de ce monde? Non. Il y a une vraie distance à garder avec cette présence du monde. Et puis deuxièmement, bien sûr, être sur ses gardes, exercer sa volonté. Il est évident que certains programmes ne peuvent pas convenir à une conscience sainte. Bon, les chaînes de télévision ont commencé à être publiques. Donc, elles reflétaient quand même un monde ordonné, un monde civilisé. C'était pas n'importe quoi qui était programmé, hein, lorsqu'il y avait une chaîne unique, puis une deuxième, troisième chaîne. Tout ça, c'était des chaînes publiques. Et il y avait une certaine moralité qui présidait, qui... Voilà, c'était voilà, le reflet du monde, mais du monde quand même qui se tenait. Hein. Et puis, voilà, il y a eu diverses influences qui ont amené des éléments de trouble. Et puis la privatisation, la multiplication, et maintenant on a accès à donc une centaine de chaînes de télévision si on le désire, par les canaux classiques. Donc c'est évident, de plus en plus de désordre qui peut être manifesté dans tout cela, hein, et qui peut nous rejoindre. Donc, prudence, limite. Interdit personnel que l'on se met. Mais troisièmement, surtout, enfin, je dis surtout, en tout cas, à prendre en compte, ne jamais terminer la journée avec le monde. Toujours se replier en quelque sorte vers notre royaume spirituel. Même si on prend un temps pour avoir ce rapport avec le monde, toujours revenir avant de s'endormir, avant de plonger dans le sommeil, toujours revenir à la prière, à la méditation, à nous recentrer sur notre Seigneur, sur sa parole, se confier en lui, faire le bilan de la journée devant lui, revenir à ce qui fait tout simplement notre vie à nous. Je sais qu'il y a de plus en plus, enfin ça s'est répandu voilà, au cours des décennies, de personnes qui ont la télévision dans leur chambre. Alors, voilà, ils se préparent, etc., ils se mettent au lit, ils regardent le programme, ils s'endorment. Est-ce que c'est le sens de notre vie? Est-ce que nous endormons avec le monde, ou est-ce que nous endormons avec notre Seigneur, avec l'Esprit de Dieu qui travaille dans notre cœur? Voilà quelques repères. Et au sujet de cet instrument, la radio aussi d'ailleurs, mais surtout la télévision, il y a ce passage de l'Ecclésiaste que je voulais vous lire, 1 verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Donc, si on se, en quelque sorte, on se branche, en disant, bon, ben, je vais, voilà, juste passer un moment, bon, voilà, sachant qu'il y a quelque chose en nous qui risque de toujours être insatiable de ce qui peut se voir, de ce qui peut s'entendre. Donc on peut passer en réalité tout son temps, si on veut, donc avec ce média. Mais bien sûr, la télévision s'est dépassée. Depuis, notre génération a vu autre chose arriver. Hein, ça, c'est le monde de l'Internet. Alors avec le monde de l'Internet, c'est la démarche inverse. Parce que ce n'est pas le monde qui vient à nous avec Internet. C'est nous qui allons dans le monde. Les programmes télévisés étaient imposés, on allumait le poste, et puis voilà, ça nous arrivait, tout préparé. Donc avec un certain filtre, on peut dire. Hein. Mais, voilà, maintenant, cet instrument qui s'est généralisé et qui nous place dans la démarche inverse. C'est-à-dire c'est nous qui avons l'initiative, là. C'est nous qui allons, c'est nous qui consultons. Là, je vais vous citer tout de suite un proverbe, 17, verset 24. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Je répète, la sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Où est-ce que nous mettons nos yeux? Et pourquoi les mettons-nous à l'extrémité de la terre? Parce que c'est bien ce dont il s'agit avec cet instrument. Et là, nous avons accès au monde. Mais alors, réellement, là, nous avons accès au monde dans son désordre. Le monde avec ses opinions contradictoires, ses conflits, ses jalousies, ses dénonciations, ses séductions, enfin, tout y est. Et nous y avons accès, libre accès à ce monde dans ce désordre. Donc, c'est un gros souci pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas la place du fidèle. Vraiment, si il va dans ce monde, dans son désordre, il s'y perd. C'est justement tout ce monde-là qu'il a quitté en venant à Jésus. Et bon, disons que on peut aller faire quelques visites, comme quand on est en vacances, on va visiter quelques lieux historiques. Donc, voilà, on prend des renseignements. Alors, on peut avoir cette approche. Oui, mais je ne m'intéresse qu'aux sites chrétiens. Ça peut être un argument très pertinent. Je ne m'intéresse qu'aux sites chrétiens, aux discussions sur la foi, aux informations qui concernent les églises, etc. Et là, je vais sur le net pour m'y intéresser. Est-ce vraiment la bonne démarche? Qu'est-ce que nous allons trouver sur le net au sujet des chrétiens, des églises, de la foi? Ben, nous allons aussi trouver beaucoup de désordre. Nous allons trouver l'Église dans son désordre. Et alors là, mes frères et sœurs, bon courage si vous voulez y remettre de l'ordre. L'apôtre Paul avait déjà beaucoup de mal à s'occuper d'une communauté particulière, l'église de Corinthe, qui avait pas mal de désordres. Alors si vous, vous voulez vous occuper des désordres du monde entier, enfin de l'Église du monde entier, ou des chrétiens du monde entier, eh bien, vous voyez bien que c'est mission impossible. Et réellement, en fréquentant quand même, et encore ça fait, je crois, 2-3 ans que je n'ai pas été sur un site d'échange, un forum de discussion chrétien. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces discussions ? Des chrétiens qui veulent s'exhorter, effectivement, mutuellement, mais qui en définitive en viennent à se disputer. Et personne n'a raison sur les autres, et chacun garde son opinion, et l'Église n'a pas progressé. Et puis parfois, ça va quand même loin dans les échanges qui deviennent des invectives et même des insultes, totalement contraires à l'esprit dans lequel nous devons vivre. Donc vous allez trouver l'Église finalement dans son rapport au monde. Vous allez trouver même l'Église dans ses aspects mondains. Mais concernant la vraie vie spirituelle, je ne dis pas que vous ne croiserez pas quand même quelques saints, hein. Dans tout ce monde, si. Mais voilà, ce sera des exceptions, ce sera des temps particuliers. Mais même si vous avez affaire à un groupe chrétien qui a une grande puissance de communication, voilà, des beaux sites, qui fait des belles vidéos, des choses comme ça, qu'est-ce que ça dit véritablement de sa doctrine ? Qu'est-ce que ça dit vraiment de la vie personnelle de ses membres ? Plus excellente prestation même d'un prédicateur ou d'un conducteur de louange vous renseigne-t-elle sur ses dispositions envers son prochain ? Est-ce que vous pouvez le côtoyer pour connaître son caractère ? Pour connaître ses défauts, pour connaître sa manière de réagir lorsqu'il y a une difficulté avec un autre chrétien en face de lui. Tout cela, vous ne pouvez pas. La vraie vie spirituelle, elle est autour de vous. Elle est avec ceux que vous connaissez, ceux que vous pouvez reprendre directement, ou qui peuvent vous reprendre directement. Avec toute douceur et en instruisant, comme dit l'apôtre. Donc, l'usage, même chrétien, de cet instrument qu'est l'Internet, est pour le moins très limité, très à prendre également avec réserve. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'empêchement, mais dans l'esprit, là où nous construisons vraiment notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, c'est d'abord avec notre Seigneur et sa parole, dans notre relation personnelle, dans la vie de famille, dans la communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés. Et alors, quelques apports pourront venir renforcer notre foi à certains moments, notre connaissance. Mais réellement, il y a autant de pièges que de solutions avec ces moyens. Rappelez-vous que c'est réellement le rapport au monde qui est en jeu et que votre vie à vous, elle est dans le royaume qui est spirituel, qui est invisible en réalité et qui se rend visible lorsque vous-même le manifestez autour de vous. Le Seigneur vous bénisse.